C'est le groupe des femmes finlandaises Vartina qui nous accompagnait dans notre émission aujourd'hui, Remue Ménage, Radio Zone Onde Femmes 93.8. Je vous rappelle quel est l'objet qui nous intéresse et nous préoccupe aujourd'hui. Eh bien, c'est le courage de femmes d'avoir osé, il y a de cela 2 ans, c'est cela Marie et Loli, d'avoir osé porter plainte contre un médecin gynécologue qui avait eu des pratiques médicales complètement abusives, inutiles et que l'on peut considérer comme de graves lésions corporelles contre le corps des femmes qu'il prétendait soigner. Et ces plaintes qui ont fort heureusement abouti à la condamnation du médecin en question, le docteur Skouvaklis, qui était médecin à la clinique de Bois-Gentil à Genève. Mais ce médecin, bien qu'ayant été condamné à 4 ans de prison ferme, est aujourd'hui en liberté puisqu'il a fait recours et en attendant que quelque chose se passe, ce monsieur est en liberté. Nous en étions à poser la question de savoir comment les patientes s'étaient rencontrées avaient su que l'une et l'autre avaient été victimes elles aussi de ces graves atteintes corporelles et comment elles avaient décidé individuellement ou ensemble de porter plainte contre ce médecin. Alors juste peut-être pour finir cette question, Loli et Marie, vous vous êtes retrouvées finalement à 5 femmes à porter plainte contre lui, je crois.
Oui.
Est-ce que finalement ces femmes se sont à un moment donné rencontrées, les 5, pour décider d'une attitude commune à adopter face à la façon dont comme se passent hélas tous les procès et toutes les instructions, devoir répéter 100 000 fois la même chose, devoir parler publiquement de choses qui sont intimes, puisque tout ce qui concerne notre corps et la maternité sont des choses extrêmement intimes, de devoir parler aussi d'émotions aussi fortes que celles qui concernent donner la naissance, la douleur, la mutilation, etc.
Non, nous ne sommes pas concertés du tout. Chacune avait son histoire, chacune avait son problème personnel. Il était totalement différente. Le mien n'a rien à voir avec le problème des maris ou les autres. Nous nous sommes rencontrés à 4, une fois pour se voir, pour se connaître, parce qu'on était liés dans cette affaire et évidemment on a voulu faire plus ample connaissance avant les procès, mais cela a été tout. Bien sûr, durant le procès, nous avons été toutes très proches parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes toutes des femmes, on avait très peur. C'était la première fois qu'on allait dans un procès et d'autant plus un procès dans lequel il fallait parler devant des gens qu'on ne connaît pas, de nous, de notre vie privée, de notre la vie la plus intime, mais ça a été extrêmement difficile pour nous. Nous l'avons fait pour les besoins de la cause, bien sûr, et nous sommes restés très liés pendant le procès. Marie et moi beaucoup plus, parce que évidemment nous avons déjà les mêmes origines, nous sommes tous les deux d'origine espagnole, et nous sommes les premières qui avons fait démarrer cette affaire. Nous sommes devenus des amis.
Alors, je crois qu'il est important, très vite, de poser une question fondamentale. Viviane, je vois que vous l'avez petit signe.
Je voulais juste poser la question. Je crois qu'il y a eu aussi parce qu'en fait, ces pratiques devaient être connues. Vous l'avez dit, elles étaient connues par les autres médecins, par le corps médical, mais elles devaient être surtout connues par le personnel de la clinique. Alors, est-ce que le personnel a pris cause pour vous?
Écoutez, au départ, nous avons plusieurs infirmières qui ont parlé, qui nous ont raconté des choses dont je suis sûre sont parfaitement justes. Et puis après, est-ce qu'elles ont été menacées? Est-ce qu'elles ne le sont pas été? Je ne sais pas. Mais ces personnes qui avaient l'air très sincères et très honnêtes ont, on peut dire, disparu complètement de la circulation.
Sauf une
qui a eu énormément vraiment de courage. Mais les autres, on ne pouvait plus les joindre au téléphone. Elles n'avaient pas déménagé, mais presque. Et moi, j'en ai une qui m'a carrément dit, écoutez, Marie, si jamais vous donnez mon nom, mais je ne retrouve plus de travail dans le canton de Genève, ni dans le canton de Vaud. Et j'ai dû vraiment beaucoup sacrifier de choses dans ma vie pour pouvoir avoir mon diplôme d'infirmière. Et je ne pouvais pas me permettre une chose pareille. Donc,
j'aimerais dire, comment voulez-vous que des infirmières aient le courage de faire quoi que ce soit quand vous voyez que M. Segond, chef du département de la santé publique, connaissait parfaitement l'affaire Skouvaklis. Aller dans ces sauteries, je m'excuse, c'était pas des sauteries, mais c'était des grands booms à l'hôtel Hilton. Et quand on a demandé les parties civiles à M. Segond de venir devant le tribunal raconter ce qu'il savait, M. Segond n'est pas venu. Comment voulez-vous que devant tant de lâchetés de la part du ministre de la Santé, comment voulez-vous que des infirmières, qui souvent ont de la peine à trouver un emploi par ce temps de crise, viennent témoigner? On ne peut pas leur demander ça. Et moi, je comprends l'attitude de certaines personnes, même de certains médecins qui ne sont pas venus. Pourtant, le monde médical savait. Pourtant, tout le monde savait. La seule instance qui a fait quelque chose, c'est l'association de médecins. L'association de médecins a voulu faire quelque chose. L'association de médecins a convoqué M. Skouvaklis, que tout ce qu'il a eu à répondre, c'est démissionner tout de suite pour ne pas devoir répondre devant l'association de médecins. C'est tout. Mais les autres instances, comme la commission de surveillance des professions de la santé, ont totalement piétiné. Il y avait un dysfonctionnement total. M. Restellini, médecin cantonal, l'a d'ailleurs avoué lui-même, qui était totalement éclaté la commission de surveillance. Il n'y avait pas de fonctionnement valable dans cette commission. Et elle a laissé complètement traîner les choses. Alors je comprends un petit peu mieux aujourd'hui l'attitude de certaines infirmières.
Oui, tout à fait.
Il y a quand même une infirmière qui a joué un rôle important et qui a témoigné jusque dans le procès pour l'histoire d'une jeune femme d'origine africaine dont le mari était en Afrique et qui suivait donc sa deuxième grossesse. Elle avait perdu sa première grossesse, c'était terminée par une fausse couche, donc elle était très angoissée par rapport à cette deuxième grossesse. Et Skouvaklis lui a fait croire que cette grossesse était menacée et qu'il fallait l'hospitaliser. Il l'a hospitalisée et il lui avait mis une perfusion que régulièrement il interrompait et lui demandait d'aller à la banque chercher 10 000 francs. Et deux fois de suite, elle s'est rendue à la banque pour aller chercher ces 10 000 francs. La troisième fois, elle était au septième mois de la grossesse et le docteur lui a dit « Écoutez madame, cette fois-ci ça va vraiment mal, il faut faire une césarienne demain, sortez, cherchez l'argent. » Et elle est allée à la banque et heureusement il n'y avait pas l'argent. Donc le mari était à l'étranger à cette époque. Donc elle est revenue en disant « Ben voilà, cette fois-ci je ne peux pas payer. » Et Skouvaklis l'a renvoyée de la clinique en lui disant « Écoutez madame, je ne peux plus rien faire pour vous, au revoir. » Et c'est là qu'une infirmière s'est approchée d'elle et c'est celle qui a témoigné lors du procès. Donc c'est quand même un témoignage important. Et elle a dit à cette femme, écoutez madame, ne rentrez pas chez vous, vous serez bien trop angoissée. Allez à la maternité et demandez qu'est-ce qui se passe exactement avec cette grossesse. Chose qu'elle a faite, elle est allée à la maternité, la grossesse se déroulait parfaitement normalement et elle a accouché au 9e mois par les voies basses, parfaitement normalement.
Marie ? Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, moi, la première plainte, ça a été à la commission de surveillance des professionnels de la santé. Et j'ai eu, si on peut dire ça entre parenthèses, le plaisir de recevoir une lettre signée par M. Guy-Olivier Segond, qui me fait penser qu'il est complètement incompétent ou alors vraiment il y a un problème chez lui très grave, parce qu'il m'a répondu que mon affaire était classée parce qu'il n'y avait rien à redire, il ne voyait pas quelles étaient les fautes commises par le docteur Marc Skouvaklis, alors que celui-ci a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et graves en ce qui me concerne. Alors vraiment, je comprends très bien que M. Guillier-Sevangon n'ait pas vu de faute, étant donné qu'il n'est pas lui-même médecin, donc il n'a aucune notion de médecine. Alors, je m'excuse, je suis très émue et en même temps en colère parce que quand on subit ce genre d'outrage et d'humiliation et d'insultes, parce qu'en plus vous êtes obligé pour arriver jusqu'au procès, vous vous imaginez que contre un médecin qui avait fait pendant 20 ans, si ce n'est pas plus ce qu'il a voulu, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut si on n'a pas d'appui quelque part. Mais ces appuis-là, j'espère qu'ils peuvent continuer à dormir tranquilles, qu'ils ont une bonne conscience dans leur âme. Eh bien, quand vous voyez tout cet amalgame de gens vraiment malhonnêtes, et pour arriver au procès, j'aime mieux vous dire que ça n'a pas été facile, et être obligé d'aller devant des personnes que vous ne connaissez absolument pas du tout, leur raconter votre peine, votre chagrin, votre humiliation et tout ça. Mais je souhaite à personne ce genre de choses, vraiment.
J'aimerais revenir sur deux choses. J'aimerais dire que la profession médicale a droit à l'erreur, c'est clair, mais il ne s'agit pas là des erreurs. Je crois que c'est beaucoup plus grave ce que nous on a dénoncé. Et ce qui nous choque le plus, c'est le silence assourdissant, c'était les termes d'ailleurs d'une journaliste du journal de Genève, du monde médical. C'est ça qui nous choque le plus. C'est que le monde médical savait et qui n'a jamais, jamais protesté. C'était en coulisses. On lui disait, c'est vrai qu'il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. Il y a un médecin reconnu à Genève, je tairai son nom, qui m'a dit, madame, qu'est-ce que vous voulez, nous sommes lâches. Et c'est vrai, le monde médical a été lâche. Et nous n'avons pas été lâches. C'est pour ça que nous l'avons fait surtout pour les femmes. Pas pour nous. Et ne croyez surtout pas que nous l'avons fait pour une question de vengeance. La vengeance est gratuite. Nous l'avons fait uniquement pour faire connaître ce qui se passait dans le monde médical. Et j'aimerais dire autre chose. J'aimerais dire qu'il y a des brebis galeuses encore actuelles dans le monde médical. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui auront le courage, si elles tombent sur un médecin comme M. Skoubakli. Je ne crois pas qu'il puisse avoir encore un cas comme M. Skoubakli, mais il y a d'autres brebis galeuses qui aient le courage aussi de les dénoncer, parce qu'il faut les dénoncer. Il ne faut pas qu'on tombe dans le système américain où on tombe déjà dans les excès, mais je crois qu'en Suisse, il est vraiment temps maintenant qu'on commence à dénoncer tous ceux qui se permettent de faire des choses inacceptables.
Je crois que Lélie, on va reprendre ce que vous venez de dire parce que c'est très important. Et parce qu'entre autres, il faut préciser aux femmes que normalement, il y a des organes de contrôle. Il ne faut pas croire que simplement les choses peuvent se passer comme ça. Il y a des organes qui devraient surveiller ce qui se passe. Même dans les limites de la loi actuelle, il y en a. Vous avez parlé souvent de la commission de surveillance des professions de la santé qui dépend du médecin cantonal, qui dépend du ministre de la Santé pour le canton de Genève. Ces trois organismes sont censés donner des autorisations. Par exemple, celle d'accorder au docteur Soulakis le droit de pratiquer les interventions in vitro, par exemple. Et ils sont censés aussi contrôler son travail. D'après ce que j'ai lu, normalement, on devrait chaque année, il devrait rendre compte de ce qu'il fait, des réussites
des
ou
rapports,
des échecs, faire un rapport. Ceci n'avait pas été fait dans
jamais.
Le cadre du docteur Soulakis. La commission est aussi censée faire un certain nombre de contrôles sur la sécurité, par exemple, visiter les cliniques une fois par année. Il semblerait que ce n'ait pas aussi été fait dans la clinique Bois-Gentil, ou qu'on l'ait fait, mais qu'on se soit promené visiblement les yeux très fermés, puisque même les médecins eux-mêmes se sont plaints du manque de sécurité. Les pédiatres refusaient d'aller travailler, par exemple, à Bois-Gentil. Une anesthésiste, je crois, a aussi témoigné, non, de son...
Tout à fait.
Dans l'article de l'Hebdo. Donc il y avait quand même d'autres professionnels de la santé qui savaient, qui ont attaqué. Et donc on peut aussi, bon, tout le problème, c'est qu'il semblerait qu'on puisse ouvrir une clinique. Il suffit qu'on soit médecin, qu'on ait de l'argent et on peut ouvrir la clinique. Il faut très très peu de choses pour avoir le droit d'ouvrir une clinique. Tout comme il faut très peu de choses pour ouvrir son cabinet. Il semblerait qu'il faut avoir réussi ses examens de médecine. Il faut avoir réussi ses examens et point la ligne après. Il peut se passer quoi, je ne sais trop quoi. Rina.
Son diplôme, il l'avait, bien qu'il était un mauvais étudiant, a-t-on appris lors du procès. L'argent, il ne l'avait même pas. Ça veut dire qu'il a construit tout cet empire sur des emprunts au départ. Et par la suite, eh bien, ses affaires se portaient plutôt bien, puisqu'il arrivait à encaisser des montants faramineux pour des opérations inutiles. Mais il était aussi très dépensier. Parmi ces opérations inutiles, les plus fantastiques vont jusqu'à carrément ouvrir la peau, refermer et dire « Voilà, madame, l'opération a réussi et encaisser 10 à 15 000 francs. » Donc, en effet, oui, son titre de médecin lui donnait une crédibilité extraordinaire. Mais il faut quand même dire qu'à part qu'il soit en liberté aujourd'hui, il a quand même eu son droit de pratique qui a été retiré. Donc, il ne pourra plus jamais exercer la médecine et la clinique est définitivement fermée. Donc je crois quand même qu'il faut saluer le succès de toute cette histoire, parce qu'avoir fait retirer le droit de pratique à un médecin, c'est quand même quelque chose de très très fort.
Et j'aimerais dire déjà qu'en 1992, novembre 92, le Conseil d'État de Genève, l'ancien Conseil d'État de Genève, conseiller d'État, lui avait déjà retiré le droit de pratique pendant 5 ans. Donc c'est vrai qu'une fois que cette affaire a été rendue publique, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont émues, qui sont sorties du bois et puis qui se sont dit « bon, ben maintenant, il faut faire quelque chose ». C'est vrai aussi, pas tout le monde nous était hostile, hein, donc il faut bien le reconnaître. C'est vrai aussi que la presse a fait quand même pas mal, il y a eu un écho pas mal dans la presse. Et puis, parce qu'évidemment, c'était la première fois qu'une telle affaire avait lieu à Genève, d'autant plus à l'époque, lorsque nous, on a démarré, je peux vous dire que tout le monde nous disait, moi, si j'avais écouté beaucoup de gens, je n'aurais rien fait. Parce qu'on savait que M. Skouvaklist était très soutenu. Il avait une superbe extraordinaire. Il était soutenu par les gens qui dirigent Genève. Enfin, c'était quelqu'un de très, très, très respectable.
Et il avait la manie d'attaquer en justice quiconque se prenait à lui. Donc, en fait, on le craignait. Peu de gens osaient s'attaquer à lui par crainte d'avoir eux-mêmes un procès sur le dos.
Tout à fait. Son personnel le craignait énormément. Parce qu'en effet, les licenciements étaient très rapides. Il suffisait de lever la voix sur un des traitements qui avait été fait pour être renvoyé. Parce qu'en effet, ces traitements, c'était vraiment la vieille école, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il était très interventionniste et il n'était pas très, très à jour sur le plan des traitements proposés pour les différentes conditions possibles.
Ce que certains experts, d'ailleurs, lors du procès, si je l'ai bien lu, lui ont reproché. Il n'avait pas suivi de formation continue, de recyclage depuis longtemps, et on pouvait considérer qu'il était vraiment quasi incapable de réellement pratiquer les techniques nouvelles qu'il prétendait pouvoir pratiquer,
oui.
Puisqu'elles nécessitent une mise au point très importante.
Marie. Oui, excusez-moi, oui, tout à fait. Mais par contre, quand vous l'entendiez durant le procès s'exprimer, il faisait très bien comprendre qu'il y avait que lui qui savait, c'est les confrères, les autres médecins de Genève étaient vraiment des ignorants comparés à lui, parce qu'il n'y avait que lui qui savait faire. D'ailleurs, il a toujours dit que c'était de la jalousie. Je ne vois pas comment on peut être jaloux de lui. Je ne vois pas quel médecin à Genève aurait de la jalousie sur lui, parce qu'on n'est pas jaloux de quelqu'un aussi malhonnête. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut dire que c'est vrai que tous les médecins savaient, ou la plupart savaient, mais que la plupart d'entre eux n'ont, c'est vrai, rien fait, le courage manquant.
Et alors, comment expliquer, bon, le courage manquant, ça c'est certainement la phrase
clé.
Mais il
y a les médecins.
Mais comment expliquer que le corps médical soit, alors que tout le monde le critiquait, puisqu'on vous disait, mais comment vous êtes allé chez lui, tout le monde le sait depuis 20 ans que ce monsieur a des pratiques épouvantables. Comment expliquer que personne n'ait osé le critiquer? Ce personnage dessert la profession médicale aussi. Est-ce qu'il y a finalement un esprit corporatif? Moi, je ne sais pas si on peut peut-être demander
tout
ça
à
Arina, qui est bien dans le métier, connaît bien le métier aussi. Un esprit corporatiste qui fait qu'on se protège les uns les autres quand bien même quelqu'un nous dessert
absolument,
dans la profession.
Absolument, parce qu'on ne voudrait pas soi-même être attaqué ou qu'on nous pose trop de questions sur la manière dont on travaille, et donc on bénéficie de cette espèce de libéralisme qui permet entre autres à Mechevin d'avoir fait des opérations jusque tard dans sa vie et d'avoir même entraîné des décès, et la hiérarchie ne permettait pas aux inférieurs hiérarchiques de venir vers lui et de lui dire, écoutez professeur, vraiment ça va plus, il faudrait vous arrêter. Il n'a pas été le seul, ça a été le cas également du professeur de Vatteville en fin de carrière qui a fait des opérations monstrueuses. Et voilà, je crois que cette question a été soulevée par ce procès, et que ça va peut-être les obliger à revoir un petit peu
leur copie,
oui.
Mais est-ce que c'est la profession médicale qui est particulièrement protégée, sacrée?
C'est une profession sacrée, mais je crois que ce serait valable dans d'autres professions libérales aussi. Je crois qu'entre avocats, ils ne doivent pas non plus, ils doivent avoir aussi cette intouchabilité, hein, et qui leur donne aussi toute cette liberté, et qui donne aussi cette hypocrisie monstrueuse. Moi, j'ai quand même été fascinée de voir que tous ces médecins qui l'ont couvert pendant tant d'années et qui n'ont rien fait contre lui, ils l'ont pratiquement tous lâché à la fin. Ça veut dire, Herman est venu témoigner contre lui, pourtant il savait depuis 10 ans, puisque depuis qu'il est arrivé en Suisse, hein, il venait des États-Unis, il aurait déjà pu faire quelque chose bien avant. Non, pendant toutes ces années-là, il s'est tu. Au jour du procès, il s'est retourné contre lui. Parmi les médecins même de la clinique de Bois-Gentil, donc qui travaillent encore dans la clinique, la plupart l'ont lâché, ça veut dire le pédiatre et puis Bonstein, les deux l'ont quasiment lâché en faisant des témoignages mi-figue, mi-raisin, en disant, bon, bah, écoutez, il y avait beaucoup d'équipements dans la clinique, moi j'étais content qu'il y ait tant d'équipements, mais enfin, la pratique de Skouvaklist c'était la sienne, et puis moi c'était la mienne, et je ne me mêlais pas de ses oignons. Hein, ce qu'il a eu de plus soutenant, c'était ce genre de ton-là. Et l'un l'a encore soutenu et jusqu'au bout, et ça c'était le docteur Feugli, hein, qui a été pendant longtemps président de l'association des gynécologues genevois, et qui lui est parti dans une éloge extraordinaire des qualités fantastiques du docteur Skouvaklist. C'est que oui, peut-être était-il de la vieille école et un peu plus interventionniste sur le plan chirurgical que certains médecins aujourd'hui, mais qui néanmoins était vraiment un homme très doué, et lui, il l'a soutenu jusqu'à la fin.
J'aimerais dire que, contrairement à ce que dit
Rina,
je crois que dans le monde des avocats, il y a une affaire qui a fait énormément de bruit à Genève, et c'était les les confrères de cet avocat qui l'ont dénoncé. Donc je dois dire que je crois que c'est particulier au monde médical. On n'attaque pas le monde médical parce que chaque médecin, et Nina l'a dit très, très justement, a peur qu'à son tour se faire attaquer. Donc ça, c'est un monde qui est totalement à part. Mais indépendamment de ça, moi, quand je suis allée à l'association de médecins, et qui savait, bien entendu, on m'a dit, mais vous comprenez qu'on ne peut pas l'attaquer sans savoir une femme, enfin, sans avoir un dossier solide, avoir une patiente qui ose, elle, qui a un dossier solide et qui ose, elle, s'élancer. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure. C'était un homme à qui on ne s'attaquait pas. Parce que c'était un homme qui avait énormément de pouvoir et qui était extrêmement procédurier et qui était attaqué sans cesse, tous ceux qui étaient attaqués à lui. Et moi, je vais vous donner des exemples. C'est qu'il a porté plainte pénale contre moi pour diffamation et contre le docteur Rustellini.
Qui est donc le médecin cantonal,
qui est le médecin cantonal. Alors, dans ces deux plaintes, il a été débuté, évidemment, par la justice, mais il a quand même osé le faire. Donc, vous voyez qu'il...
Mais est-ce que vous voulez dire par là, Loli, que si une femme demain devait porter plainte contre un autre médecin, on connaît des cas de plainte, par exemple, pour harcèlement sexuel contre des gynécologues, par exemple. On peut imaginer d'autres situations. Est-ce que ces médecins-là seront moins protégés que celui-là? Vous pensez vraiment?
Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Il faut quand même se reporter, il y a quand même 10 ans, 20 ans en arrière, lorsque Scouvaclis a commencé, c'est qu'on ne s'attaquait pas du tout au monde médical. Aujourd'hui, les choses ont évolué, parce que dans les autres pays aussi, ça évolue. Donc ça, ça aussi fait prendre conscience aux gens qu'on peut aussi s'attaquer à des médecins. Et nous, parce que nous avons fait, nous avons voulu démontrer qu'on peut aussi les attaquer. C'était aussi ça notre but. Démontrer que ces gens-là, lorsqu'ils font des choses qui sont abominables, mais il faut avoir le courage de le dénoncer parce qu'il existe une association de médecins, parce qu'il existe une commission de surveillance qu'aujourd'hui, je l'espère, elle pourra fonctionner et elle fera le travail qu'elle doit faire. Et je l'espère qu'aujourd'hui, des gens qui ont des problèmes oseront le faire.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Loli. Moi-même, quand je me suis adressée donc à l'association des médecins, mais quand je leur ai expliqué ce qui m'arrivait, la personne d'ailleurs qui m'a reçue a levé les yeux au ciel en me disant « Mais madame, mais vous savez pas contre qui vous voulez lutter, mais vous n'imaginez absolument pas. » Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut une dose de courage inimaginable. Et toutes les femmes qu'il y aurait un problème de ce genre, il faut qu'elles ne se laissent pas faire, il faut qu'elles aient le courage, parce qu'il y a des médecins qui sont foncièrement honnêtes et qui sont des personnes vraiment extraordinaires. Mais malheureusement, il y a des gens très malhonnêtes. Je ne sais pas si c'est au niveau du docteur Marc Escouvaclis, mais qui sont très malhonnêtes. Et ceux-là, on n'a pas le droit de les laisser pratiquer. Et si les associations, si l'association des médecins, si tout ce que vous voulez, ne fait pas son travail, parce qu'ils ne peuvent pas ou je ne sais pas, eh bien c'est à nous, à chacun de nous, de prendre ses responsabilités et de ne pas permettre ce genre de choses. La seule chose, c'est qu'il faut être très, très, très courageuse et il ne faut pas laisser tomber.
Moi, j'aurais une autre suggestion simple, c'est bien avant le procès, si vous voulez, c'est l'habitude de prendre un deuxième avis. Voilà, moi, c'est ça le conseil que je donnerais aux femmes. Oui. Si un médecin vous dit, voilà, moi, j'estime qu'une opération est justifiée dans votre cas, et je prendrai l'exemple, par exemple, de l'ablation de l'utérus, qui est donc une opération très courante et qui est proposée pour ce qu'on appelle un fibrome ou myome, des tumeurs bénignes de l'utérus, bien, beaucoup de ces opérations sont inutiles, auraient pu être évitées. Je crois que l'habitude qu'il faut prendre, bien avant le regret et le procès, si vous voulez, c'est de prendre un deuxième avis auprès d'un autre soignant et si possible d'un soignant qui ne soit pas de la même école, ça veut dire qu'il ne soit pas exactement de la même veine. Par exemple, prendre un deuxième avis naturopathique ou prendre un deuxième avis auprès d'un soignant qui n'est pas du tout de la même famille éthique que l'autre. Et ça, ça pourrait éviter bien des situations et c'est valable pour d'autres questions de la médecine, pas seulement pour la gynécologie, bien entendu.
Si vous êtes d'accord, Rina, Marie et Loli, je vous propose qu'on reprenne cette question-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui s'est passé, à partir du jugement et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les choses qui sont à proposer aux femmes, pas seulement dans les plaintes juridiques, mais pour éviter cette situation? Parce que comme vous le disiez, quand même, si des femmes avaient parlé avant, vous n'auriez pas été victime de cela. Donc il y a peut-être aussi d'autres choses que l'on peut faire pour éviter que des femmes se trouvent dans cette situation, de type de proposition que vient de faire Rina.